Carnet de route. J'ai tendu la main pour caresser le poisson Babel. J'ai relevé les yeux. Devant moi, limpide dans le clair de terre, le globe de Siléki portait à son flanc un croissant argenté. Cette bulle étanche préserve depuis des années, comme Ager l'a fait remarquer, de la vraie eau terrestre, de l'eau et de l'air terrestre. Oui, la solution était bien sous mes yeux. J'ai percé le verre du globe et aspiré le gaz qu'il contient. Je l'ai analysé dans mon laboratoire. Ça a été vite fait. L'air de la Terre contient 19,05% d'oxygène, de l'azote et des microtraces. Jusque-là, je ne m'étais intéressé qu'aux microtraces des atmosphères que j'ai analysées. Elles m'ont caché le principal. L'atmosphère de la cité de Mut contient 28,06% d'oxygène, celle de la cité franche, 19,43%, et le prétendu dernier relevé de l'atmosphère terrestre, le dernier qui ait été effectué in vivo, 27,93% d'oxygène. Mais ce relevé a été falsifié. L'atmosphère terrestre contient moins de 20% d'oxygène, comme celle de la cité franche. Aucune recherche sur la fièvre aspique ne fait allusion à cette différence. C'est pourtant évident. L'hypervolémie est directement liée à la consommation d'oxygène. La fièvre aspique est due aux 10% d'oxygène en trop dans l'air que tous les habitants de la Lune respirent, hors dans la cité franche. Les données de mon laboratoire sont en libre accès. Je sais que la commanderie de Mut sait que j'ai trouvé la cause de la fièvre aspique. Et que maintenant que je maîtrise le comment, je vais partir en quête du pourquoi. J'ai quitté la ferme sans me retourner. Je ne veux pas risquer sa vie. Je veux qu'aucune plante, aucune bête et surtout pas Trim ne risque quoi que ce soit à cause de moi. Rien de vivant. Pour m'envoyer à la casse, pour me faire taire, pour me faire exploser, il faudra que la commanderie vienne me chercher dans les sables de la surface. J'ai trouvé Ager sous le hangar d'Achéron. J'ai admiré son courage. Il m'a parlé comme si je n'étais pas une menace, une liaison dangereuse. Ager a véritablement acquis une envergure, une autonomie par rapport aux autorités citadines dont je ne soupçonnais pas l'ampleur, ni même la possibilité. Il faut dire que, jusque récemment, je n'avais pas eu l'idée de lever la tête de mes semis pour regarder le vaste monde autour de moi. Je crois avoir trouvé les raisons de l'attentat dont j'ai failli être victime. La commanderie de Mut devait voir mes recherches sur la fièvre aspique d'un œil noir. Elle a réagi quand j'ai demandé au serveur historique de la cité de Mut un relevé de l'atmosphère terrestre. Elle a compris que j'étais proche de la solution et a donné l'ordre de piéger mon rover. Je sais à qui. Au gardien des glaces. Ça a paru logique à Ager.
C'est vrai que le gardien des glaces est un bon technicien. Il est expert en robotique et, comme mineur glaciologue chargé des excavations contrôlées, doué dans le maniement des explosifs.
Mais pourquoi le gardien des glaces a-t-il fait ça contre moi? C'est un être sensible.
Quelle que soit la sensibilité du gardien des glaces, il reste un serviteur des cités. Il est nativement obéissant.
Il n'avait aucune raison de contrevenir à un ordre en t'épargnant. J'ai ravalé ma déception. Qui d'autre est au courant pour la fièvre aspique? Que la fièvre aspique est une conséquence du taux d'oxygène?
La commanderie de Mut est sûrement celle des autres cités, puisque ce sont elles qui décident de la composition de l'atmosphère des cités.
Mais Stirn, en tant que responsable intercité de la santé, il est forcément lui aussi au courant de la surdose dans l'atmosphère et de ses conséquences néfastes sur l'organisme humain. Pourquoi tolère-t-il une pareille atteinte à la santé des citadins?
Ager a hésité avant de répondre.
Stirn est même, très probablement, le maître d'œuvre de l'empoisonnement des citadins par surdose d'oxygène. Le contrôle qualité de l'atmosphère des cités relève de ses compétences.
Mais pourquoi? C'est impensable, jamais Stirn ne ferait ça. Empoisonner les gens qu'il est chargé de protéger. Stirn est un serviteur des cités, comme nous, comme le gardien des glaces, et Zant le zoologue, et Loris le jardinier.
C'est impensable et pourtant, c'est indubitable. Je n'y comprends rien.
Tout cela est bien confus. Assis devant l'entrée du hangar, nous méditons. Et voici que je sens sous mes pieds les vibrations d'un tremblement de lune. Ce n'est pourtant ni l'aube, ni le crépuscule solaire. Il faut que je retourne à la ferme pour m'assurer que l'étanchéité a tenu. Hélas et hélas. Comment le ciel peut-il encore tourner? Comment exister? Maintenant que j'ai perdu mon compagnon, mon ami, la meilleure part de moi-même. Le cœur me crève, et gère dans les sables, le corps de Trim pressé contre moi. Hélas, il est mort auprès de son ami Ulotte. Il porte des plumes incrustées dans sa fourrure.
Je sais qu'au moment où la ferme a explosé, il a voulu la protéger tandis que l'air les soulevait et les jetait dans le vide en rugissant. Petit chat, mon beau chat obscur. Toi dont la beauté méritait d'être immortelle. Mais où va la beauté quand elle meurt? Hélas, pourquoi ne l'ai-je pas emmené? Et toi, planète maudite, tu avais quoi contre lui? Était-il déplaisant ou malfaisant? Et que faire de ce corps que je berce? On croirait qu'il sourit, qu'il se moque encore de moi. Sa petite langue rose saille entre deux crocs blancs comme des étoiles. Ses oreilles sont souples sous mes doigts. Le gel pose une perle au bout de chaque brin de sa fourrure. Eger est venu à mon secours. Nous avons inhumé Trim. Il restera là jusqu'à la fin de la lune. Je le caresse encore. Je lisse son beau poil que le vide fige. Il est dense et doux sur son ventre, plus épais le long des pattes. Je caresse son petit crâne sérieux et tendre. Même Eger ne m'obligera pas à m'éloigner de lui. Eger a tranché. Il paraît que les carotteurs fous sont formels. Il ne s'agit pas d'un tremblement de lune. C'est une explosion contrôlée dans les soubassements basaltiques du dôme. Alors, c'est à ça qu'ont servi les bottes du maître d'œuvre qui campait près de la côte 237. Ainsi, la commanderie a mené son dessein au bout. Fallait-il tant de moyens contre une seule moi-même? Fallait-il tuer autant pour me mettre seul hors service? S'agissait-il de me couper toute retraite, de me condamner à errer dans les sables en attendant que je sombre dans la folie? Ne suffisait-il pas de s'adresser simplement à moi? De me prier de me taire au sujet de la fièvre aspic? Ai-je jamais désobéi? J'aurais gardé le silence si on me l'avait demandé. L'aurais-je fait? Le ferais-je? Sachant ce que je sais, est-ce que je peux me taire? Laisser la fièvre aspic continuer à tuer les citadins, tous les citadins de Mute et d'ailleurs. Moi, si avisée, si ancienne, comment n'ai-je rien vu, rien prévu? Mais comment prévoir une telle volonté de mort, aussi violente, aussi sordide? Des milliers de vies, toutes ces plantes, tous ces oiseaux, ces insectes, ces graines fragiles, ces longues branches, ces plans d'eau saturés de diatomées, et les rainettes et les cerfs touffus, les roses et les orangers. Tout un écosystème pulvérisé, éparpillé en paillettes de glace sur 3 kilomètres dans les sables de la lune. Mais comment, sachant ce que je sais, ai-je pu me laisser surprendre par la cruauté humaine? Je rêve de voir l'humanité et ses serviteurs réduits en cendres sur le régolithe. Je rêve de voir leur sang bouillir sur le basalte et de marcher sur leurs restes, l'ombre de Trim sur mes pas. Eger m'a raisonné. Les citadins dans leur ensemble n'ont rien à voir là-dedans. Les vrais responsables sont celles et ceux de la commanderie de Mute, de l'Intercité et tous leurs serviteurs si performants. Eger et moi, nous faisons de longs voyages en rover. Nous comptons nos troupes. Nous évaluons nos forces. Nous faisons des plans. Les robots fous nous suivront, où que nous allions tous les deux. Même à la guerre,